Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poirette sur RTL.
9h40.
Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce matin, Laetitia, Thierry, Sébastien et Glantine, bonjour.
On est tous là, bonjour Bernard.
Laetitia Nallet, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, le terrazzo? Expliquez-nous, c'est un truc de sol, c'est pour faire des sols, c'est
ça? Mais oui, exactement, c'est qu'est-ce ce sol moucheté qu'on trouve dans les vieilles maisons en France.
Avec des tout petits points de couleur.
Voilà, exactement. Oui, le terrazzo en France, on l'appelle aussi granito, il a été beaucoup utilisé dans les années 20. Terrazzo, ce sont des fragments de pierre naturelle et de marbre colorés liés avec du ciment. Mmh. Et alors, quand ce sol est poli, il brille, c'est magnifique.
Et oui, puis, avec un nom comme ça, ça doit être italien, non?
Ah bah oui, l'origine remonte à la Grèce antique. Oui, avec les invasions romaines, le terrazzo va vite se retrouver en Italie, notamment à Venise, d'où son surnom de mosaïque vénitienne. Le sol de la salle du Grand Conseil du Palais des Doges, qui fait plus de 1000 mètres carrés, est en terrazzo sans aucun joint.
Je m'en souviens.
Ah ouais, à l'époque, en fait, on déposait un mortier sur le sol et puis on semait à la main comme ça les morceaux de marbre.
Donc aujourd'hui, on ne fait plus pareil,
j'imagine. Bah non, aujourd'hui, les chutes de marbre sont incorporées dans le ciment, qui peut même être teinté. Mais surtout, on trouve le terrazzo sous forme de dalle, bien plus facile à poser. Et on trouve même aujourd'hui du carrelage imitant le terrazzo, qui donc est moins lourd et peut-être plus facile d'utilisation.
Vu la nature du terrazzo, j'imagine que c'est facile d'entretien.
Il se nettoie avec une serpillière et si vous avez une grosse tache, vous pouvez poncer le sol à l'infini. Plus vous le poncez, en fait, plus il va être brillant, plus il va être beau. C'est super solide.
Très bien, c'est bien ça quand même. Et alors, quel conseil concrètement pour l'utiliser, les sols d'abord?
Alors, historiquement, c'est un revêtement pour le sol et en ce moment, c'est vrai qu'on le pose aussi bien sur le sol que sur les murs. On peut faire des escaliers en terrazzo et même des vasques.
Laetitia, c'est quand même un petit peu chargé, non?
Moi, je suis d'accord.
Oui, non, voilà.
C'est des gros plans que vous voyez à l'image.
C'est magnifique. Après, quand vous avez un sol c'est comme moucheté. Ça, c'est vrai que pour la déco, il est très présent, le sol, avec ses taches multicolores. On dirait un peu un gros nougat, non? Vous ne trouvez pas?
C'est appétissant.
Du coup, pour le reste de la déco, il faudra être plutôt sage.
Pourquoi vous dites qu'il revient à la mode?
Parce que tout revient un jour ou l'autre à la mode.
Exactement. C'est son côté vintage qui plaît, je pense.
À carreaux,
son côté aléatoire, authentique, voilà. Cet été, ça va être la folie, hein, je vous préviens. Vous allez trouver mais tout en terrazzo. Des tables, du papier peint, des objets, des assiettes et même des impressions textiles, des coussins en imitation terrazzo. Mais ça va être la méga tendance.
D'accord.
À signaler que Grandinetti, spécialiste italien du terrazzo depuis 1902, utilise près de 70% de matériaux recyclés dans sa fabrication de carreaux de terrazzo. Et plutôt que le marbre, vous allez trouver à l'intérieur des morceaux de vieux pare-brise recyclé. Une fois poli, on dirait vraiment du marbre ou du cristal. C'est magnifique. Cette production a 20% d'impact en moins sur l'environnement par rapport à une production habituelle. Et ça, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est chouette.
Mais vous avez bien fait, Laetitia. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler du sujet de votre
demain,
choix.
Je vais même rester là, d'ailleurs.
Vous êtes une femme libre. D'ailleurs, demain, vous serez là. Mais c'est vrai. Thierry Denis, en ce printemps où pluie et soleil jouent pour le moins un saute-mouton, vous êtes assez fasciné, me semble-t-il, par un arbuste très pimpant, quel que soit le temps, en fait. Le Photinia Red Robin.
Oui, Bernard,
c'est quoi cette chose?
Ce cotinia est originaire d'Asie. Il est heureux dans presque toute la France.
Sauf le Morvan.
Bien sûr, parce qu'il est trop fort.
Parce que vous êtes là.
Alors, j'envie tous les jardiniers de l'Ouest, du Nord, du Rhône ou du Midi, qui, eux, peuvent en planter. Et autour de Paris, on en fait des haies merveilleuses.
Oh, génial, justement, moi je cherche une haie. Alors, racontez.
Alors, Laetitia, vous plantez une haie. Dans vos rêves les plus fous, comment l'aimeriez-vous?
Un peu fleuri, moi j'aimerais bien, non?
Mais
c'est
toute
pas
l'année.
Possible.
Toute
et puis, avec des feuilles toute l'année, évidemment.
Alors, pour les feuilles, c'est gagné. Car mon photinia est persistant. Persistant, ça veut dire qu'il garde ses feuilles 12 mois sur 12. Red Robin va vous plaire, car ces nouvelles feuilles qui poussent tout de suite, là au printemps, ne sont pas vertes, mais d'un rouge étourdissant.
Ah,
c'est seulement
génial.
Un mois après.
Au printemps, pas en automne.
Elles vont revenir, Mais là, au printemps, c'est vraiment hyper flashy. Ce petit arbuste, le photinia, va fleurir. Extrêmement beau, tout blanc, et même il va donner des baies rouges qui sont appréciées des oiseaux.
Et il est dur à l'entretien ou on le laisse faire?
Hyper facile, il faut juste être strict.
Un bon
coup de taille-haie en août. Coup de haie en août va l'inciter à repousser du plus belle et avec à nouveau les mêmes jeunes feuilles rouges, très jolies que celles du printemps.
Bon, d'accord.
À la Toussaint, une deuxième petite taille, plus légère, juste pour que la haie soit nette en hiver.
Ça marche qu'au jardin ou ça a une taille raisonnable pour un balcon?
Alors, pour le balcon, peut-être pas Églantine, car c'est un trop grand garçon. Plantez plutôt son petit frère, le Photinia Robusta Compact.
Il y a aussi le micro, c'est le cousin.
Alors, Robusta Compact est content comme tout quand il est en bac. Ces deux arbustes se trouvent dans toutes les jardineries pour un prix vraiment raisonnable, c'est une trentaine d'euros.
Mais ça va.
Et vous avez peut-être une autre info à propos de cette chose-là, ou peut-être du mois qui vient, je ne sais pas.
Oui, parce que avril, c'est le grand mois des expos de plantes. Les jardiniers du centre de la France pourront aller aujourd'hui et demain à celle de l'Arboretum de Baleine, dans l'Allier.
C'est l'Allier.
À mi-chemin entre Nevers et Moulins, à Villeneuve-sur-Allier, très exactement. Alors, outre les stands des gentils pépiniéristes, ils découvriront un parc enchanteur, il y a 1000 essences rares, plus une ribambelle de camélias rustiques, vraiment rustiques, et 150 magnolias, dont l'étourdissant Magnolia Suzanne, aux grandes fleurs pourpres et parfumées.
Thierry, vous mettez toutes les infos à propos de cet arboretum sur rtl.fr. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante dans un court instant. Sébastien veut nous faire du veau cru, c'est-à-dire, j'imagine, un carpaccio de veau.
Oui.
Non, c'est pas forcément.
Entre autres.
Non, peut-être ça va être du tonello vide.
Non plus.
Eglantine, elle, écoutez, je vous laisse voir ce qu'elle veut faire. Mais ça a un côté avec le champagne, d'après ce que j'ai compris.
Pas loin.
À tout de suite.
Maison, jardin, cuisine, brocante sur RTL.
Il est 9h48.
La suite de Maison, jardin, cuisine, brocante. Sébastien Demorand, du veau cru. Pourquoi pas ? Mais on en fait quoi ? Moi, je dirais un tartare.
Absolument, pourquoi pas, Bernard ? Bien sûr. Ou, comme vous le disiez, un carpaccio. C'est le même principe qu'avec le bœuf, tout simplement.
Oui.
Le veau cru, 100% les amis, c'est faisable. Et comme toujours, si vous voulez obtenir un effet bœuf, c'est moi ce jeu de mots, et surtout quelque chose de vraiment goûteux, c'est ça qui nous intéresse, eh ben, il ne faut vraiment pas mégoter sur la qualité. Donc, par exemple, si vous trouvez, mettons, du veau fermier du Limousin, allez-y. Ou alors, parlez avec Monsieur le Boucher, demandez-lui ce qu'il a sous le coude en ce moment, et suivez ses conseils.
Alors, pour un carpaccio, qu'est-ce que je demande au boucher ? L'aile ou la cuisse ?
Alors, ni l'aile ni la cuisse, ma chère, elle est vraiment larguée. Hein, oui, 10 ans qu'on travaille ensemble, elle en est encore là. Quelque chose de très tendre, Laetitia, puisqu'on va la déguster crue, cette viande de veau, en très fines lamelles. C'est un carpaccio. Faites, par exemple, un morceau de noix de veau de lait.
Oui, le vrai veau de lait, le vrai veau sous la mer, c'est pas donné.
C'est donné, Thierry, mais il n'en faut pas des tonnes. C'est vrai que c'est un produit absolument exceptionnel. C'est une chair d'une délicatesse absolue, quasiment nacré, d'un rose un peu pâle. Accessoirement, le souci, c'est que tous les bouchers n'en ont pas forcément.
Voilà. Oui, mais j'ai déjà vu, moi, chez les bouchers, du carpaccio de veau déjà préparé.
Oui, ça existe, et ça, c'est cool, évidemment, parce que vous n'avez pas à vous embêter à le tailler vous-même en tranches super fines. C'est vrai que c'est un peu délicat. Dans ce cas-là, ce que vous faites, Églantine, c'est vous assaisonner simplement à la maison huile d'olive, copeaux d'une vieille mimolette orange, quelques petites giclettes d'huile.
Je ne peux pas la gâcher, la vieille mimolette, je la mange en quantité.
Huile de noisette, un petit peu de jus de citron vert, et vous n'oubliez pas, naturellement, à la fin, la fleur de sel, le poivre blanc du moulin pour assaisonner. Vous vous préparez avec ça une petite salade de fenouil.
C'est simple,
très fraîche, très délicate. Huile d'olive, citron vert à nouveau, fleur de sel, poivre blanc. On a les ingrédients sous la main. C'est fastoche.
Voilà,
et ça, c'est donc la recette pour le carpaccio. Mais je sens que Thierry a envie d'une deuxième recette. Est-ce qu'on fait ou pas ce tartare, Thierry ?
Je suis fan de tartare de bœuf, donc je suis prêt à essayer.
Donc le tartare de veau, ça va vous plaire. Alors là, on va prendre du filet, les amis. Toujours, si votre portefeuille vous le permet, toujours du veau de lait. Ce veau, vous allez le hacher assez finement, assaisonner avec huile d'olive et jus de citron. On n'oublie toujours pas le sel et le poivre. Et c'est pas terminé, il faut quelques olives vertes concassées. On va prendre mes fameuses lucs. Les lucs du Languedoc, exactement. Un petit peu d'écorce de citron confit. Quelques brins de thym. Moi, j'ai été récupérer l'autre jour au fond du jardin un peu de thym. Non pas du thym ordinaire, mais du thym citron. Très intéressant. Oui. Tout ça au frais, jusqu'au moment de servir. Ça doit être très onctueux, très enrobé par l'huile, très fondant. Et vous servez avec ça, bêtement, un petit mesclun, des petites pousses de salade assaisonnées à l'huile d'olive, avec quelques petits copeaux de parmesan taillés à l'économe. On déguste ça frais. Surtout pas glacé. Ouais. Interdit. Streng verboten. C'est bien reçu ?
Non, c'est bien compris. C'est bien compris.
Ça a l'air parfait.
Églantine émaillée, c'est à vous. Et je dirais même que je vous laisse les manettes.
Mais c'est important. Merci, Bernard.
Vous avez une bien belle robe, très 70s.
Hein. C'est pas une robe, c'est un haut, mais je suis flattée quand même.
Bon, c'est charmant quand même.
Bon, je vais quand même être totalement transparente sur le sujet dont je vais vous parler maintenant. Je dois vous avouer que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucune idée, mais absolument aucune idée, de ce qu'était un modulateur type 67 RAF WW2i, un boîtier de commande BD79A. Ou plus simple, une control box MK10.
Oh là là.
Et pour être honnête jusqu'au bout, pas sûr que je retienne ces noms plus de temps que durera cette chronique.
Moi non plus.
Pour moi, c'est
des manettes incompréhensibles. De contrôle de quelque chose.
C'est des marques de grille-pain américains.
C'est pas loin. Non, c'est Bernard qui brûle. Ce sont des instruments d'aviation historiques. Instruments que vous trouverez peut-être à la 10e brocante aéronautique de Champagne qui aura lieu à Saint-Dizier ce week-end.
Oh, je pense que Pierre-Julien va y foncer ventre à terre. Moi, je pense aussi qu'avec un lancement de sujet comme celui-là, tout le monde monde éventuellement peut-être intéressé.
Mais vous ne croyez pas si bien dire, Bernard. Je vous conseille vivement cette brocante, que vous soyez passionné d'aéronautique ou pas. Mm-hmm. D'abord parce que c'est un événement majeur après l'aéropuce du Bourget qui se déroule chaque année en octobre.
Ouais.
Mais surtout parce qu'il n'est pas nécessaire d'être collectionneur pour trouver son bonheur dans une brocante aéronautique. Bien au contraire.
Magnifiques.
Personne n'est à l'abri d'un coup de foudre pour la maquette du premier avion qu'il avait eu enfant. Messieurs, vous en avez eu.
Des souvenirs horribles de colle sur les doigts.
Spitfire.
Fouga Magister.
Wow.
Magnifique.
On peut avoir aussi des coups de cœur pour des affiches publicitaires. Il y a des affiches publicitaires de couleurs des années 60 magnifiques.
Ouais.
Vous pouvez aussi vous offrir l'insigne d'une escadrille, par exemple. Il y a plein d'objets sympas. Des instruments, bien sûr, des porte-clés, des maquettes, des hélices, des jouets, des uniformes, des combinaisons de vol, des casques, des casquettes, des cartes postales, des livres, des bandes dessinées.
Oh là 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 là.
Franchement, les yeux brillent quand on rentre dedans.
Oui, mais il y a vraiment des collectionneurs comme ça d'instruments d'aviation.
Oui, l'aéronautique a toujours déchaîné les passions avec des connaisseurs qui n'hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis à restaurer des avions anciens. Alors évidemment, ce genre de passion coûte cher. Hein. Et pour se financer, beaucoup viennent donc dans ce genre de brocante. Ils deviennent vendeurs le temps d'un week-end et ils proposent des objets rares dont ils n'ont plus l'usage.
Entendons-nous bien, Églantine, il n'y a pas d'objets publicitaires, genre les cendrières France magnifiques, très lourds et ce genre de choses.
Vous pouvez en trouver, je pense.
Il y en aura peut-être aussi.
Okay. Alors, tous ces objets rares qui sont vendus pour se faire un petit peu d'argent, j'imagine qu'ils sont très chers.
Il y a une telle variété de choix que c'est impossible d'annoncer des prix, mais c'est vrai que c'est souvent dans ce genre de manifestation qu'on peut faire les meilleures affaires.
Et
impossible de dire.
Et pourquoi Saint-Dizier spécialement ?
Eh bien, Saint-Dizier, c'est un lieu marquant pour l'aviation, puisqu'en 1909, c'est à Saint-Dizier qu'il y a eu le premier meeting aérien au monde, suivi par les premières courses aériennes.
Et actuellement, il y a toujours une base de l'armée de l'air française avec des rafales. Précisément l'adresse, où est-ce ?
Alors, c'est la brocante aéronautique de Champagne, c'est à Saint-Dizier Aéro Rétro. Je vous mets toutes les informations sur Internet.
Mm-hmm.
Et je vous conseille, pour rester dans l'ambiance, de visiter la collection du musée aéronautique local, où là, vous pourrez voir de nombreux avions anciens, dont certains sont encore en état de vol.
Écoutez, moi je pense que c'est un excellent endroit pour aller passer le week-end.
C'est original.
Qu'on soit amateur ou pas. Mm-mm. Merci beaucoup mes amis, je vous souhaite un très bon samedi.
Bah oui.
Revenez demain.
À demain.
Bye.
Vous écoutez RTL.